Bonsoir Nicolas Arpagian.
Bonsoir.
Vous êtes expert dans ce domaine des attaques informatiques, auteur de La cybersécurité aux presses universitaires de France. Elle est crédible, cette piste russe qu'évoquait David Philippot? En même temps, on se dit que si tout le monde est visé sauf le parti d'extrême droite, ça fait un peu gros comme signature presque.
Alors effectivement, là vous avez parlé d'une attaque technique, mais il y a également une attaque informationnelle. Donc ce sont ces deux vecteurs qui vont se combiner. Alors est-ce qu'il y a un savoir-faire? C'est vrai que ces systèmes de messagerie, dès lors que vous avez, et c'est le cas du pirate, l'initiative du mode d'attaque, de la nature de la cible, de l'agenda de votre agression numérique, c'est vrai que les parlementaires ne sont pas une communauté difficile à pirater. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont tous les jours sollicités par des interlocuteurs qu'ils ne connaissent pas, qui les sollicitent pour leur informer, leur transmettre des informations sous des fichiers vidéo, des PDF, des fichiers très variés. Et donc c'est vrai qu'à un moment, obtenir la contamination par le système de messagerie n'est pas quelque chose d'insurmontable.
C'est le fameux phishing, hein. On envoie plein de mails et il y en a un qu'on ouvre qui est vérolé et tout part de là. Hein. C'est aussi bête que ça.
Vous misez sur la connexion en réseau de vos interlocuteurs qui, une fois que vous êtes rentré dans le système, vous pouvez naviguer, c'est le cas effectivement dans une administration et dans le Parlement. Donc c'est vrai que l'attaque de 2015 avait été, alors le gouvernement, l'administration allemande, le bureau de protection justement de la l'Office de protection de la Constitution, donc les services de renseignement allemands, avaient officialisé leur conviction qu'il y avait une responsabilité russe à l'époque, donc ils avaient effectivement poussé jusqu'à l'identification. Ce qui est certain, c'est que là, on n'est pas dans le cas d'un schéma d'une attaque a priori crapuleuse, comme on pourrait le voir vis-à-vis d'entreprises, par exemple, pour faire des usurpations d'identité.
On est pour de la déstabilisation politique, c'est ça,
hein? Exactement. D'ailleurs, votre confrère Julien Robke de Bild le dit clairement, il a accès à un certain nombre de documents et dit, mais il y a des éléments de corruption, il y a des éléments qui concernent des éléments choquants de la vie politique et les secrets de la vie politique allemande. Donc effectivement, on va voir maintenant la deuxième phase de l'attaque, c'est-à-dire un peu comme il y a eu la contamination, maintenant on va voir la dispersion dans l'opinion publique. Et effectivement,
donc mèche lente, hein. C'est une mèche lente. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit il y a que des données personnelles, peut-être secondaires. Voilà, on appâte et puis après il y a du gros qui arrive derrière.
Certainement. Enfin, les changements de mot de passe qui sont recommandés aux parlementaires, qui sont et aux personnalités médiatiques qui sont citées, évidemment, de toute façon, il est une démarche recommandée de modifier régulièrement et de mettre à jour des mots de passe complexes et variés selon les sites auxquels on se connecte. Donc c'est tout à fait bienvenu. Par contre, le vrai sujet n'est pas vraiment là. Le vrai sujet, ça va être les informations et surtout les mises en cause d'individus, les mises en cause de partis politiques et donc qui vont être obligés de se défendre possiblement contre des informations qui sont effectivement infondées ou manipulées. Et donc ça va contribuer à polluer, à infecter, parce que pendant que se fera cette espèce de déballage, mais avec des contre-argumentations, effectivement, vous ne parlez pas politique, vous ne parlez pas des sujets de fond. Donc c'est un moyen informationnel à distance qui permet d'être particulièrement efficace dans les prochaines semaines.
Mais tout ça, Nicolas Arpagian, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé aux États-Unis, le Parti démocrate, il y a 2 ans, et puis même juste avant l'élection présidentielle française, la campagne d'Emmanuel Macron. Ça ressemble un peu à ça.
Exactement. Et d'ailleurs, Angela Merkel avait dit en 2016, ce type d'attaque appartient désormais à notre quotidien. Et on voit aujourd'hui que les démocraties devront, alors la France l'a fait dans le cadre d'un loi sur les fake news spécifique au cadre électoral, mais on voit bien que la guerre informationnelle et que les opinions publiques doivent s'éduquer en quelque sorte pour justement apprendre de ces informations et être de plus en plus critiques quant à la mise à disposition, circonstances dans lesquelles ça intervient. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça devient, au regard de notre consommation numérique, ça devient aujourd'hui une des armes, et surtout qu'à distance, vous évoquez une responsabilité russe potentielle, il est évident que le commanditaire a tout intérêt, il reçoit le bénéfice de l'action et a des difficultés à voir sa responsabilité mise en cause. Il est donc un bénéficiaire direct de l'opération. Donc les Russes, pourquoi pas? Est-ce qu'ils ont le savoir-faire? Oui. Est-ce qu'ils ont l'intérêt à agir? Comme disent les juristes, certainement. Et ils disposent des ressources, alors soit directement, soit par des supplétifs, alors qu'ils peuvent être éventuellement des alliés de circonstances qui mettent à disposition leur expertise.
Et on se rend compte que les attaques souvent sont pour les mêmes raisons, mais que chaque pays se défend peut-être un peu dans son coin. Merci infiniment, Nicolas Arpagian, d'avoir été sur France Info ce soir. Je cite à nouveau le titre de votre livre, La cybersécurité, publié aux Presses universitaires de France.